partir du 6 avril, tous les dimanches à 17h, CFM vous permettra de participer à une nouvelle émission, Les Sabots d'Hélène. Faites-nous part de vos expériences en matière de rêves prémonitoires, de médiumnité, de télépathie, d'intuition, et ceci en tout anonymat. Hélène, voyante, sera présente pour répondre à vos questionnements sur tous ces sujets. Pour nous joindre ou enregistrer votre témoignage, par téléphone 05 63 67 03 57, par courrier CFM boîte postale 16 82 160 Caylus, ou par mail les sabots d'Hélène, CFM tout attaché, @gmail.com. Et à dimanche.
Et dimanche, nous y sommes. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour.
Alors moi j'étais sidéré, cette proposition de faire une émission de voyance, qu'est-ce que c'est que la voyance?
Alors en fait ça va être sur la parapsychologie en général qui regroupe...
La parapsychologie?
La parapsychologie.
Waouh, il va falloir mettre un lexique à chaque fois.
Hein. Voilà, terme un petit peu technique, qui regroupe en fait la voyance, les rêves prémonitoires, la médiumnité, le magnétisme, la télépathie.
Derrière chacun des termes, il va y avoir
voilà,
un développement d'enfer.
Voilà, c'est exactement comme la cuisine qui regroupe tout un tas de spécialités. Et il y a un terme générique qui est cuisine, et après on a la pâtisserie, on a le saucier, on a énormément de choses. Donc ça concerne la voyance déjà, dans un premier temps. Donc la voyance, c'est une intuition développée chez certaines personnes, elle l'est plus ou moins. Donc vous avez deux types de voyance en fait. Ce qu'on appelle la voyance directe, c'est-à-dire des flashs qui viennent spontanément. On n'a rien demandé et puis c'est des images qui arrivent.
Ce qu'on a dans les rêves.
Non, ça c'est les rêves prémonitoires. Je parle de la voyance pure, voyance directe, c'est-à-dire que vous êtes bien réveillé.
Vous fermez les yeux et vous voyez un truc.
Vous fermez pas les yeux et vous avez une image qui vous arrive. Vous avez rien demandé à personne et cette image vient se caler dans votre tête. Vous savez absolument pas pourquoi.
Et comme en général, on n'en a pas forcément conscience.
On comprend pas surtout.
Elle passe tellement vite que voilà, on a du mal.
On en a conscience, mais on ne sait pas à quoi elle correspond. On la comprend pas très souvent parce que après c'est un peu comme un muscle, ça se travaille. Voilà. Et alors il y a la voyance sur support, qui est la deuxième sorte de voyance. Donc le support, c'est ce que tout le monde connaît, les gens qui utilisent depuis la nuit des temps des moyens de voyance tels les cartes. Bon, dans l'Antiquité, c'était le sable, les œufs, etc. Selon les ethnies et les religions, les supports sont différents.
Depuis qu'on a importé le café, on lit dans le marc aussi.
Aussi chez les Turcs, c'est dans le marc de café. Bon, faut avoir envie de boire le café après. Hein. Et donc vous avez les cartes, la boule de cristal. On parle toujours de la boule de cristal. Je connais pas grand monde qui actuellement utilise la boule de cristal, mais bon.
À part Madame Irma.
Et voilà, absolument.
Dans sa roulotte, qu'on voit un petit peu partout.
Ben en fait, je pense que c'est une espèce en voie de disparition quand même, la voyante dans la roulotte. Hein.
Il faut sauver Madame Irma.
Oui, il faut absolument sauver. On va absolument envisager la chose. Donc, c'est le plus souvent des cartes, des tarots, des jeux divinatoires. C'est en fait, chacun a son support. Les personnes qui sont habituées à tirer les cartes ou qui font de la voyance comme moi, on est habitué à un support préféré. Voilà.
Et je suppose que vous avez une connaissance de d'où ça vient, les tarots, les choses comme ça, non?
Mais écoutez, les tarots, il y a des jeux divinatoires, des oracles, l'oracle de Béline, l'oracle de G, enfin il y a un nombre de jeux divinatoires absolument impressionnants en fait.
Donc on a compris que dans les sabots d'Hélène, on va apprendre des tas de trucs, mais même écoutez, si on n'en voit pas.
Voilà, on va surtout apprendre à comprendre quand on a une expérience comme ça, de ce que j'appelle l'intuition développée, à comprendre ce que c'est, à mieux le vivre et éventuellement à l'utiliser, et surtout à simplifier les choses et à pas penser qu'on a un truc bizarre et qu'on est à part de reste de la planète.
Oui, parce que ça peut angoisser d'avoir une vision comme ça.
Ça angoisse. Donc après, on a dans la parapsychologie, on a les rêves prémonitoires. Donc les rêves prémonitoires, c'est quelque chose. Je pense que même les gens les moins enclins à être du côté de la parapsychologie ou de ce genre de choses, ont un jour ou l'autre dit tiens, j'ai fait un rêve bizarre aujourd'hui, cette nuit, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, même s'ils ont zappé dans les 5 minutes qui suivaient.
Et alors ça c'est un truc curieux d'ailleurs, que ça soit tout de suite oublié si on le note pas, si on fait pas cet effort.
Alors il y a deux types de rêves prémonitoires. Il y a le rêve prémonitoire où en effet on se réveille au milieu de la nuit, on a eu un rêve où on avait vraiment l'impression que c'était vrai, et je pense qu'on fait vite la différence entre un rêve, un cauchemar ou un rêve prémonitoire. L'impression est très différente. Et puis le rêve prémonitoire dont le lendemain matin quand on se réveille, il vous embrume le cerveau et il martèle quoi. Il est vraiment là et il est présent et il est même obsédant à la limite.
Alors à partir de maintenant, on sait que sur CFM il y a les sabots d'Hélène le dimanche à 17h et les auditeurs qui ont ce genre de choses, ils vont se dépêcher de les noter. Et éventuellement de vous interpeller en disant qu'est-ce que je peux faire avec ça.
Voilà, d'une part. D'autre part, très souvent, c'est des expériences de rêves prémonitoires qui ont été marquantes dans la vie de quelqu'un. Du type, avant un décès, par exemple, un rêve prémonitoire. Bon, la chose qui est connue de façon extrêmement populaire, c'est j'ai perdu une dent de devant. Ça, c'est une chose qu'on entend très fréquemment avant le décès de quelqu'un de proche. Voilà, la perte des dents. Bon, après, ça peut aussi être un rêve où on a besoin simplement d'aller voir le dentiste. Je veux dire, faut quand même conserver les pieds sur terre, simplifier. Mais souvent, j'ai vu ce rêve prémonitoire qui est classique de la perte de dents. Et plus la dent est devant et plus la personne est proche, c'est quelque chose qui est récurrent dans la culture populaire. Voilà. Donc après, il y a la médiumnité. Alors ça, c'est la partie, je dirais, la moins marrante. La médiumnité, c'est des expériences où, en fait, on se retrouve en contact avec des personnes qui sont décédées. Genre une personne qui vient de perdre, par exemple, sa grand-mère, son grand-père, et qui, au milieu de la nuit ou au moment de se coucher, peu importe, se retrouve avec la personne devant elle.
Ça s'appelle un fantôme, ça.
Oui, alors le mot de fantôme, je déteste ça parce que je trouve que ça fait boum, on va venir vous tirer par les pieds et ouh, il est vilain le machin. C'est simplement, à mon avis, le magnétisme. Nous sommes nucléaires, nous sommes des êtres nucléaires au départ. Donc les choses sont imprégnées.
Enfin, il y a des anti-nucléaires aussi.
Oui, mais ceux-là, ils défilent dans les rues.
Voilà. Rarement. Mais puis si ça se trouve, ils ont aussi des
rarement
des
dans la chambre la nuit. Ouais. Voilà. Ou dans une pièce. Et très souvent, on a des personnes, quand il y a eu un décès, ils disent, mais j'ai l'impression de sentir la présence, ils sentent quelque chose derrière eux, ils se retournent, bon, il y a rien, évidemment. Il y a une main sur l'épaule. Enfin, et je dirais que c'est des expériences qui sont tellement, tellement courantes. Moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais de la voyance. En tant que voyante, les gens se lâchent sur ce genre d'expérience et je me rends compte qu'ils sont légion à voir ce type de choses et ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment le gérer, ils en ont peur, alors qu'il faut prendre ça naturellement comme quelque chose qui fait partie de notre nature. Si on prend les animaux, très souvent c'est les premiers à capter ce genre de signaux. Voilà.
Oui, il y a des exemples phénoménaux de chiens qui se laissent mourir sur des tombes parce qu'ils. Bon, est-ce que c'est la présence du maître, c'est l'odeur, c'est.
Ben, il y a surtout des exemples de chiens qui, après un décès, se mettent à aboyer devant un mur, alors qu'il n'y a rien sur le mur, mais on sent la présence de la personne et il y a le chien qui aboie histoire de remettre une couche et puis de bien vous mettre la peur parce que quand même quelque part, c'est pas notre élément naturel.
Ben, ça, voilà. Tout ce qu'on ignore nous inquiète, c'est bien une des raisons pour lesquelles on veut faire peur souvent.
Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, je veux dire en règle générale, c'est oui, juste aussi, une communication finalement.
Aussi bien on se retrouverait dans des domaines métaphysiques du type l'âme existe et si on l'aperçoit finalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Voilà, absolument. Absolument. Donc ensuite, il y a le magnétisme. Alors le magnétisme, on entend beaucoup parler des gens qui, par exemple, coupent le feu. C'est classique. Moi, j'ai vu dans des petits villages, les pompiers amener des personnes qui s'étaient brûlées à la personne qui coupe le feu. C'est assez classique. Je dirais qu'on en entend plus parler en milieu rural que dans les grandes villes.
Oui, parce qu'il y a plus de docteurs savants dans les grandes villes et qu'ils se gossent.
Oui, c'est-à-dire que bon, le pansement gras ou la bille affine sont remplacés par une apposition. Et le magnétisme, c'est aussi des gens qui sont des guérisseurs, qui, bon, attention, quand je dis guérisseurs, ce sont des gens qui sont capables de calmer des douleurs, d'améliorer des choses. En aucun cas, un magnétiseur ne va guérir complètement un cancer. En aucun cas, un magnétiseur n'est passé par Lourdes avant et ne fera de miracle complet. Il peut aider quelqu'un, il peut, dans certains cas, annihiler une maladie ou quelque chose qui est souvent d'ordre psychosomatique, mais il a des limites, comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas un magicien, on va être clair. Mais il y a des magnétiseurs qui font vraiment des choses extraordinaires. Voilà.
Alors, est-ce que bon, vous allez continuer à nous décliner toutes les catégories que vous mettez dans cette émission, finalement. Mais là, si on s'arrête un petit peu sur les magnétiseurs, est-ce que on peut imaginer qu'il y a des gens qui découvrent ce don, ce talent, ce, je sais pas comment l'appeler, et qui du coup orientent leurs études vers ça? Et que du coup, par exemple, il y a des ostéopathes qui en réalité avaient ce don et du coup ils soignent, mais on ne sait pas si c'est par l'ostéopathie qu'ils ont appris en faisant leurs études ou si finalement le même à côté, sans diplôme, aurait pu faire la même chose.
Alors c'est complémentaire.
C'est pervers hein, comme question.
Non, pas du tout. C'est au contraire, c'est très intéressant. Dans tous les cas, les études médicales, quelles qu'elles soient, médicales ou paramédicales, c'est une chose. Avoir du magnétisme, ça peut arriver à quelqu'un qui est bouché comme à quelqu'un qui est dans le corps médical.
Bouché, vous voulez dire oui, charcutier
Voilà, absolument.
Ah, oui. Vous auriez pu dire plombier.
Ou coiffeur. Ou,
non, mais parce que quand vous dites bouché, moi je vois découper de la viande, ça me fait peur déjà.
Faut pas. Il faut pas. Donc, le magnétisme, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y a beaucoup de gens qui ont du magnétisme, c'est-à-dire que quand ils ont les mains qui se mettent à chauffer un peu sur une... Naturellement, un enfant va, quand on a mal quelque part, poser la main sur l'endroit où on a mal, en disant bah, « je vais t'enlever le bobo ». C'est quelque chose de naturel, qui très souvent disparaît au moment de l'adolescence, parce que là, on a tout un tas de paramètres logiques et cartésiens qui viennent vous dire « non, on guérit pas un bobo en mettant la main dessus ».
Surtout si on a des bactéries sur la main, on fait qu'aggraver la situation. Bah, alors qu'une guenon ne se pose pas cette question.
Johan, vachement positif. Pas de souci. Et donc, il y a des gens qui ont du magnétisme qui s'en servent, qui ont une profession complètement autre à côté. Il y a des gens qui se sont complètement axés sur le magnétisme et qui sont magnétiseurs. Et il y a des personnes qui ont du magnétisme et qui... c'est un peu comme si on se prenait une charge électrique, c'est pas de l'électricité, mais c'est un peu comme si on avait en nous emmagasiné une charge d'électricité trop forte, et on a besoin à un moment donné de décharger de cette électricité en faisant des appositions. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se retrouvent mais mal dans leur peau parce que ils ont pas encore accepté leur don. Voilà, c'est ils ont besoin de, ils sont pas sûrs d'eux, ils disent bah, je vais essayer, ah bah oui ça a marché, et après ils se sentent un peu mieux parce que ils se déchargent de ce trop plein de magnétisme en fait. Alors ils font du bien aux autres et en même temps eux ils s'équilibrent. Ça peut paraître un peu étrange, mais ça fonctionne assez bien comme ça.
Alors magnétiseur, médium, ça, pour l'instant on parle d'un don.
On parle d'un don, alors. Le don, moi je trouve que comme don il y a mieux, parce que c'est quand même des choses qui sont difficiles à porter des fois, qui peuvent être perturbantes, et physiquement parce que ça peut fatiguer, et psychologiquement parce que très souvent les gens se sentent décalés par rapport aux autres, n'osent pas en parler dans leur milieu, que ce soit professionnel ou familial, parce que ils ont peur qu'on les prenne tout simplement pour des dingues. Ça pourrait enlever de leur crédibilité sociale entre guillemets. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend les témoignages sur CFM dans cette émission en tout anonymat du reste.
Oui oui, voilà. Les filles s'appelleront Ginette et les garçons Jean-Pierre systématiquement.
Ouais, Ginette c'est peut-être pas, mais on peut le faire.
Quoi, si voilà. Ginette
c'est pas. Non. Voilà. Donc après il y a la télépathie encore.
Ah oui. Alors, il y a quand même des universitaires qui travaillent sur des mesures statistiques pour savoir si chaque fois ce sont des coïncidences ou pas. Et à la fin, ils disent, il y a quand même des moments où il y a beaucoup de coïncidences.
Oui, alors c'est la théorie des probabilités, en fait. Il y a eu des expériences dans les instituts métapsychiques qui ont été faites et qui continuent à être faites. Celle que peut-être certaines personnes ont déjà entreaperçue, c'est deux individus avec des jeux de symboles, enfin des cartes avec des symboles dessus. Il y en a une qui tire un symbole et l'autre, sans voir ce que l'autre a tiré, doit dire quel est le symbole qui a été tiré. Voilà. C'est entre la voyance et la télépathie, là. Puisqu'en fait, c'est la communication entre deux personnes.
À la belote, c'est imparable, ça.
Je joue pas à la belote. Les cartes, je fais que les tirer, en fait.
Mais imaginez, le gars, par télépathie, il sait ce qu'a son partenaire, ce qu'ont ses adversaires.
Oui, on n'est pas non plus dans un film de SF. Hein.
Bon.
Voilà. On va rester sur le plancher des vaches.
La télépathie, on n'arrête pas, justement, d'essayer de voir si c'est possible. Moi, je me souviens d'avoir vu des reportages pour essayer de discuter avec quelqu'un dans un sous-marin. Quoi.
C'est utilisé par l'armée. Ouais. Ça a été utilisé au niveau scientifique, expérimenté, utilisé. Je dirais qu'il y a même eu des cobayes où ça a été un petit peu loin, quoi. Voilà.
Moi, je peux pas empêcher de caser un calembour, la télépathie en fin des vacances.
Oui, Johan.
Oui, pardon.
N'a pas pris son médicament ce matin.
Alors les télépathes,
ça peut être occasionnel. C'est pas forcément quelque chose de récurrent. C'est pas forcément, on n'est peut-être pas télépathe puissance 200 en permanence. On peut avoir une expérience de télépathie. D'ailleurs, le cas qu'on va examiner aujourd'hui, une auditrice nous a envoyé.
Ah, on va examiner un cas aujourd'hui. Voilà. Il va falloir faire vite alors.
Est un cas de télépathie. Voilà.
Bon, et vous rappellerez dans chacune des émissions dans quelle catégorie vous pensez situer les cas posés ou pas ?
Oui, absolument. La personne m'envoie son ou par email ou par téléphone
au 05 63 67 03 57. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous laissez un message.
Absolument.
Anonyme, pas de
voilà.
problème.
Voilà, et on vous rappelle et on met ça au point. Dans tous les cas, la personne qui laisse son témoignage, ce sera moi qui, justement, va expliquer à quel domaine il appartient, comment l'utiliser, comment le simplifier, comment ne pas en avoir peur et comment ne pas se sentir en décalage par rapport à ce genre de phénomène. Voilà.
Aujourd'hui, Ginette est télépathe.
Voilà. Alors, elle nous a laissé le message suivant. Donc, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de constater que quand je pensais très fort à un membre de ma famille, celui-ci téléphonait dans le quart d'heure qui suivait. Donc, c'est quelque chose d'assez classique aussi. C'est beaucoup de gens qui, je pense à un tel et, on le croise ou il téléphone dans la demi-heure qui suit. C'est
d'où l'expression quand on parle du loup, il arrive sur le rond-point, par exemple.
Voilà, on en voit la queue, etc. Et voilà. Cela se produisait également de façon plus précise lorsqu'une fois je devais aller chercher mon fils au collège et que ma mère venait d'être hospitalisée. Je pensais très fort qu'il fallait qu'il vienne me rejoindre à l'hôpital. Et il en prit la direction sans vraiment savoir pourquoi. Je l'ai retrouvé sur l'avenue, juste devant l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple type de télépathie qui se produit plus facilement, alors ce qui est prouvé, entre des gens proches. Ça, les expériences ont été faites sur les jumeaux, par exemple, sur les parents et les enfants, et sur un couple très amoureux. C'est-à-dire que on peut facilement, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, on peut facilement, en se concentrant très fort sur la personne, dire « Tiens, tu me retrouves là ou tu me téléphones ?» Moi, j'ai eu l'expérience il y a encore pas longtemps. J'étais en Pologne, ma fille était en France. Le seul moyen de se communiquer, c'est Facebook. J'ai ouvert Facebook et j'ai pensé très fort à elle. Je me dis « Mince, elle dort !» Dans les elle me dit « Je me suis réveillée brutalement et je me suis mis sur Facebook. » On peut passer des messages. Le cas de cette femme, c'est quelque chose de très classique. Donc, il faut absolument se considérer qu'on peut l'utiliser aussi. Ça peut être un outil. Faut pas en abuser parce que faut pas non plus décoller complètement de terre, mais on peut s'en servir et de façon extrêmement pragmatique et pratique surtout.
On pourrait économiser des appels du coup. On pourrait dire pense au pain, un truc comme ça. Non, je déconne.
Je suis resté un an sans téléphone Et je fonctionnais comme ça. Je disais aux gens, quand vous arrivez à la maison, bon, les portes étaient tout le temps ouvertes, j'étais en race campagne, vous pensez très fort à moi et je sais qu'il y a quelqu'un à la maison. Après, c'est un entraînement. C'est, je suis incapable de courir plus de 50 mètres, mais la personne qui s'entraîne à courir 3 km, 10 km, 20 km, elle a cet entraînement. C'est pareil, c'est exactement pareil, c'est un entraînement. Voilà.
On peut muscler sa capacité à communiquer.
On peut la développer, on peut la développer, absolument. Absolument, et moi je conseille aux gens qui ont ce type de capacité de les développer, justement, parce qu'en les développant, d'une part, ils acceptent cette chose qui fait partie d'eux-mêmes, ils l'acceptent et ils le vivent beaucoup mieux en l'acceptant. Et les exemples de télépathie avec les animaux aussi sont extrêmement fréquents. Je veux dire, des animaux qui arrivent à retrouver leur maître et qui font 1000 km pour retrouver leur maître, que ce soit chat ou chien, si c'est pas de la télépathie, on m'expliquera ce que c'est. Voilà.
De la géolocalisation.
Ouais, ils ont un GPS intégré dans le cerveau, en fait, l'oreille droite, généralement.
Ça, c'est vrai que c'est toujours une question qu'on pose. Ça émerveille quand ça arrive, ce genre de truc. Mais j'ai jamais vu le début d'un commencement d'explication. Hein.
Mais c'est tellement classique, en fait. Nous sommes des animaux, quelque part. Nous sommes des animaux. On a évolué, certes, mais on est des animaux. Donc, on a quand même un ressenti, une sensibilité. Cette sensibilité, elle a une palette de couleurs, en fait, cette sensibilité. Vous êtes plus dans le rouge, dans le vert, dans le jaune. Vous avez vos propres couleurs, comme vous avez votre propre sensibilité et les différents domaines dans lesquels cette sensibilité va s'exercer. Voilà.
Alors, moi, j'ai lu une série de bouquins où on nous raconte, validé par des spécialistes, des anthropologues, que l'homme de Néandertal avait un cerveau plus grand, utilisait moins la pensée rationnelle, mais en revanche avait réussi à transmettre la connaissance sur la pertinence d'utiliser des plantes pour soigner des choses, le fait que de savoir qu'elles sont comestibles ou pas sans refaire l'expérience lui-même, et aussi cette capacité à communier à travers un mage ou comment on appelait ça
c'est toute la déification, quelle qu'elle soit, selon les religions, les ethnies et, voilà. Et depuis la nuit des temps.
Et que l'Homo sapiens, lui, a perdu ça en utilisant la pensée et le langage. Il a transmis oralement et du coup, il n'y avait plus besoin de cette transmission sensible qui devenait innée.
Bon, parce que cette transmission sensible fait partie d'un acquis culturel de toute façon. Elle est génétiquement inscrite.
Voilà, alors comment un acquis peut devenir inné ? C'est vachement intéressant.
Oui, on part sur la théorie de l'inné et de l'acquis de
Jean-Jacques Rousseau. On n'aura pas le temps avant la fin de l'émission. Ça, hein. Mais alors, Ginette et la télépathie, elle, qu'il faut qu'elle fasse.
Moi, je conseille vivement à cette charmante personne de le travailler, de refaire des expériences comme ça avec ses enfants, de voir si... Tiens, écoute, tu vas penser fort à moi. C'est comme un accident, quand quelqu'un a un accident, quelqu'un de proche, on le sent. Une mère, par exemple, pour ses enfants, ou un couple amoureux, des jumeaux qui vivent des choses en parallèle, même s'ils sont éloignés géographiquement. C'est quelque chose de tellement classique qu'il faut pas hésiter à ce qu'elle essaye de l'utiliser, puisqu'elle a cette capacité. De la travailler, tout simplement de la travailler en faisant des petites expériences, parce que travailler, c'est faire des expériences finalement, en disant tiens, je vais penser à toi, toi tu vas noter de ton côté à quelle heure t'as eu l'impression de que je pensais à toi, moi je vais noter de mon côté à quelle heure j'ai pensé à toi, ce type d'expériences qui sont complètement marrantes à la limite, amusantes et informelles et qui...
La deuxième phase, c'est voilà, qui permettent... pense à un numéro ou une carte à jouer
Oui, on peut aussi faire par exemple avec un jeu de 32 cartes, tout simplement, tiens, la prochaine, c'est quelle carte ? Mais je dirais que ça, c'est quand même plus litigieux, je veux dire, comme expérimentation, parce que là, on rentre dans la théorie des probabilités sur 32 cartes, par exemple. Si vous faites le calcul des probabilités à chaque fois, ça peut être très intéressant, mais vous ne développez plus un don, vous faites des calculs. Voilà.
Mais s'il y avait autant de capacités en travaillant à deviner les choses, il y aurait plus de gagnants au loto.
Alors ça, c'est la question bête et méchante que...
Que je suis bien capable de poser, merci.
Que beaucoup de gens ne peuvent pas s'empêcher de poser. Elle est excellente. C'est pas fait pour gagner de l'argent, en fait, ces choses-là. C'est fait pour s'en servir. À la base, c'est fait pour... C'est la force de la pensée. La pensée, elle doit être positive. C'est comme la prière. On doit, quand les gens prient, ils prient en positif pour quelqu'un. Donc cette force de la pensée, donne toujours des ondes positives, apporte des ondes positives. Le loto ou ce genre de choses, ça n'est pas du tout. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un gagner au loto par la voyance. Je le vois pas, ça.
Oui, mais je veux dire, même avec la prière, moi, je n'ai jamais réussi que la paix soit dans le monde pour les 100 000 colombes. Je sais pas quoi.
Oui, vous avez trop écouté Nana Mouskouri, je pense.
C'est Mireille Mathieu.
D'accord. Non, mais la prière, c'est... Bon, par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade, ou vous allez prier. Enfin, les gens qui sont croyants. Je veux dire, ça peut être n'importe quelle religion. Je veux dire, c'est que ce soit catholique, protestant, musulman, juif, bouddhiste, peu importe. C'est la force de la pensée qui est pour quelqu'un et qui est pour le bien-être de cette personne. Et cette pensée positive amène du positif à la personne pour laquelle on fait sa prière. Voilà.
On va conclure l'émission aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même punition. Les gens peuvent poser leurs questions au 05 63 67 03 57, y compris la nuit, en laissant un message sur le répondeur et on le communiquera de façon anonyme.
Et en allant sur Google, Gmail.
Ils peuvent nous écrire à lessabotsdhelenecfm@gmail.com. Et puis écrire, s'ils utilisent le crayon et le papier, à CFM, Les Sabots d'Hélène, boîte postale 16-82-160 Caylus. Et vous allez trier pour savoir si c'est une question de divination, de médiumitude.
Médiumnité pour les intimes.
Voilà. Enfin, tout ça, c'est de la parapsychosomatique?
Non, parapsychologie. Métapsychique, parapsychologie. Donc, on se retrouve maintenant tous les dimanches à 5h pour notre nouveau rendez-vous où j'examinerai vos témoignages et ils sont tous bienvenus. Et quelles que soient les questions que vous pouvez vous poser, on essaiera d'y répondre ensemble et j'essaierai de vous apporter la lumière, si on peut dire, et de clarifier les expériences qui peuvent vous être arrivées. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène.
Au revoir.
Balance. star in the biggest wave, race towards the